Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, l'ère du soupçon. On nous cache tout, on nous dit rien, on nous ment. Tout se manigance derrière notre dos. Mais à force de voir le mal partout, on oublie qu'il existe vraiment. Et que bien souvent, il arrive quand on est persuadé de détenir la vérité. Et si le problème des complotistes n'était pas qu'ils doutaient de tout, mais qu'ils ne doutaient pas assez? C'est ce qui distingue le complot de la théorie du complot. Allez, accrochez-vous, en route sur le chemin de la philosophie. On commence par s'en griller une.
Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée, elle me colle au bec. Elle aussi, s'il te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh, je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds.
Bonjour Mathias Girel.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure, directeur du Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences. Mmh. Et vous avez édité et préfacé Golden Holocaust, la conspiration des industriels du tabac, de Richard Proctor, aux éditions des Équateurs, où l'on y apprend que si, comme Jacques Higelin, on est amoureux de sa cigarette, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas tout.
Effectivement, comme vous l'avez remarqué, donc dans ce livre de Robert Proctor, le sous-titre est la conspiration.
J'ai dit Richard, pardon.
Oui,
c'est Robert.
On va avoir un autre Richard peut-être plus loin, mais il est question d'une conspiration. Effectivement, ce sont des termes qu'on n'utilise pas à la légère. Et dans le livre de Proctor, même s'il examine beaucoup d'aspects beaucoup plus lourds, institutionnels, il repère quand même un certain nombre de stratégies, soit sur les utilisées pour peser, soit sur la connaissance de ce produit, y compris la connaissance médicale, et pour peser aussi sur les discours. Par exemple, dans les années 80, il y a beaucoup de campagnes qui sont financées pour insister sur le plaisir, alors qui peut être lié à la cigarette ou à d'autres produits, les discours qui critiquent l'hygiénisme aussi, et donc c'est l'ensemble de ces stratégies qui sont restituées dans ce livre, et qui posent effectivement la question de savoir si on peut essayer de décrire un peu concrètement, empiriquement, quelque chose qui ressemble à un complot sans être soi-même un complotiste ou un adepte des théories du complot.
Donc là, vous parleriez de complot à propos de l'industrie du tabac.
Mais je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Je pense que, Proctor, quand il l'utilise, ne le fait pas à la légère. Mais bon, si on essaye de se donner une définition minimale du complot, donc on pourrait dire que c'est une action explicitement concertée, peut-être qu'on pourra revenir sur les termes, mais explicitement concertée d'un petit groupe d'acteurs qui vise une fin légalement ou éthiquement répréhensible et à l'insu du plus grand nombre. Donc action concertée, intentionnelle, qui vise une fin critiquable et en secret ou en tout cas de manière non publique. Si on a ces éléments-là, il me semble qu'on peut effectivement parler d'une forme de complot, de conspiration très ordinaire qu'on peut décrire tout à fait empiriquement.
Donc complot et conspiration sont pour vous synonymes?
Oui,
en
anglais c'est conspiracy. Après on peut faire des distinctions fines, mais en tout cas là en l'occurrence il n'y en a pas du point de vue de cette définition préliminaire.
Et dites-moi, comment est-ce que le philosophe de formation que vous êtes, philosophe des sciences, en est-il venu à travailler, à s'intéresser à la question du complot aujourd'hui?
Alors,
Je vous pose la question à dessein, hein,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr. C'est venu de deux choses. Le travail antérieur que vous avez évoqué, donc sur la manière dont certaines connaissances pouvaient être, disons, fragilisées, voire détruites. Dans un certain cas, ça m'incitait naturellement à réfléchir à cette notion de complot. Et puis, il y a une raison beaucoup plus prosaïque, qui est que dans le cadre de mes enseignements, j'ai fréquemment un cours d'introduction générale à l'épistémologie, à la philosophie des sciences, et que cette notion de complot, bien, elle nous incite ou elle nous conduit à réfléchir à énormément de notions tout à fait fondamentales, à des catégories, que ce soit des catégories de la connaissance ou des catégories utilisées pour décrire l'action humaine. Et donc, c'est un thème qui est un très bon fil conducteur pour rentrer dans des thématiques philosophiques beaucoup plus ardues, beaucoup plus complexes.
Bon, on va commencer, on va tirer un des fils d'interprétation philosophique qu'incite à avoir la réflexion sur le complot. Voici un texte de Karl Popper, tiré de La société ouverte et ses ennemis. Écoutez.
Il existe une thèse, que j'appellerais la thèse du complot, selon laquelle il suffirait, pour expliquer un phénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'il se produise. Elle part de l'idée erronée que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des desseins d'individus ou de groupes puissants. Idée très répandue et fort ancienne, dont découle l'historicisme. C'est, sous sa forme moderne, la sécularisation des superstitions religieuses. Les dieux d'Homère, dont les complots expliquent la guerre de Troie, y sont remplacés par les monopoles, les capitalistes ou les impérialistes. Je ne nie évidemment pas l'existence de complots. Ceux-ci se multiplient même chaque fois que des gens croyant à leur efficacité accèdent au pouvoir. Cependant, il est rare que ces complots réussissent à atteindre le but recherché. Car la vie sociale n'est pas une simple épreuve de force entre groupes opposés, mais une action qui se déroule dans le cadre plus ou moins rigide d'institutions et de coutumes, et qui produit maintes réactions inattendues. Le rôle principal des sciences sociales est, à mon avis, d'analyser ces réactions et de les prévoir dans toute la mesure du possible.
Il existe une thèse que j'appellerais la thèse du complot, selon laquelle il suffirait, pour expliquer un phénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'il se produise. Voilà la notion qu'introduit Popper dans sa définition du complot, c'est la notion d'intérêt, Mathias Giraud.
Effectivement, d'intérêt ou d'intention. Alors dans l'extrait qui vient d'être lu, Popper fait de la théorie complotiste de la société, une sorte de superstition qui serait la lointaine descendante de l'approche manichéenne du monde où nos destins seraient manipulés par les dieux et leurs intentions. Et donc Popper, dans ce texte-là, critique une certaine forme de marxisme, dans laquelle beaucoup de marxistes ne se reconnaîtraient pas d'ailleurs, mais en tout cas, l'idée effectivement que chaque fois qu'il y a une injustice, il suffirait de désigner ceux qui y ont intérêt pour avoir élucidé toute l'affaire. Et Popper, donc dans ce texte-là, qui porte effectivement sur l'intention, il a en tête un argument méthodologique assez général sur les sciences sociales, disant que on peut pas transférer des catégories qui appartiennent à l'intention individuelle aux faits sociaux, à l'ensemble du fonctionnement de la société. Et donc, de ce point de vue-là, il est très critique vis-à-vis de l'approche complotiste de la société, sur laquelle on pourra revenir. Mm-hmm. Il voit un certain nombre d'objections. Il y a une forme d'émergence ou de genèse des faits sociaux qui implique des outils, des concepts, des catégories très différents de ceux utilisés pour décrire l'action individuelle. Il estime aussi que, en général, les complots ne fonctionnent pas, les choses ne se déroulent jamais comme on les avait prévus. Donc ce qui semble être un argument par rapport à cette idée de maîtrise que semblerait supposer la conspiration, le complot. Il pense également qu'il est très difficile de garder le secret sur ses intentions. Et donc il ne voit que des objections contre l'idée du complot, contre cette idée d'une action menée par quelques-uns à l'insu du plus grand nombre et qui arrive à ses fins. Toute la question, c'est de savoir si finalement Scott Popper décrit effectivement ce qui est bien en jeu dans la théorie du complot, où s'il ne se donne pas ici, disons, une proie un peu trop facile, peut-être.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, de fait, les marxistes qu'il critique dans ce texte-là, n'emploieraient peut-être pas autant qu'il le dit la notion d'intention individuelle. Ils seraient peut-être davantage attentifs aux structures, aux situations, au jeu des institutions. Et d'autre part, il a un argument assez contourné parce qu'il dit bon, il n'y a pas de méga complot, il n'y a pas de complot à l'échelle de la société derrière lequel on pourrait retrouver des intentions individuelles, excepté quand des complotistes arrivent au pouvoir.
Oui, et ça c'est important. La deuxième partie du texte, il dit je ne nie évidemment pas l'existence de complots et pour mieux démonter les complots existants, il faut aussi reconnaître que, enfin, pour mieux démonter l'absurdité d'une théorie du complot, on va y venir, il faut reconnaître que les complots existent.
Oui, c'est chez lui quand même une reconnaissance un petit peu mêlée de beaucoup de réticence, effectivement, dans ce texte-là. C'est une structure rhétorique qu'on retrouve souvent dans ces textes. Je ne vais pas nier qu'il y a des complots. Mais, et en général, on avance un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'idée même de complot. Mais si on reprend les arguments de Popper, ils sont assez puissants. Parce que, effectivement, quiconque veut poser l'hypothèse de l'existence d'un complot, eh bien, il ou elle doit arriver à nous montrer... s'il y a bien eu cette intention préalable de la part d'acteurs, parfois il y a des injustices sociales, des injustices qui se déroulent sans qu'il y ait eu d'intention explicitement formulée. Est-ce qu'on va parler de complot dans ces cas-là? Je ne sais pas si c'est la meilleure catégorie. Il faut arriver à montrer comment ces acteurs ont agi en secret, comment ils ont pu garder le secret. Et on sait que c'est une des choses les plus difficiles à réaliser dès que des collectifs sont assez importants. On a des exemples dans l'histoire avec le projet Manhattan ou un certain nombre, disons, d'opérations militaires, mais garder le secret, c'est excessivement difficile d'un point de vue anthropologique. Et il faut aussi arriver à expliquer comment ces acteurs ont réussi à se protéger contre le décryptage de leurs actions par d'autres agents, d'autres acteurs qui ont tout à fait intérêt à y voir clair dans les intentions des autres. Et donc, Popper, dans ce sens-là, a raison. Le complot, en général, le grand complot, le petit complot, est improbable pour ces trois raisons-là, liées à l'intention humaine et à la difficulté à la mener à bien, liées à la difficulté liée à l'action secrète et, troisième, liée à la difficulté de protéger nos intentions contre le décryptage des autres.
Ce que vous voulez dire, c'est que le vrai complot est rare.
Il est rare, oui, pour ces raisons-là. Il est rare, mais pas impossible.
Alors là où Karl Popper nous est très utile pour la discussion du jour sur la théorie du complot, c'est justement lorsqu'on introduit le terme de théorie. Une chose est de constater l'existence de complots, une autre est d'en faire la théorie. Dans le terme de théorie, on y entend une ambition, disons, scientifique. Je vais vous prouver qu'il y a vraiment un complot, que celui-ci, finalement, suit la logique qui est celle d'une théorie qu'on pourrait trouver en science. Alors Karl Popper est celui qui montre qu'en science, un des indices du caractère scientifique d'une expérience ou d'une affirmation est le recours à l'expérience et au fait de pouvoir montrer que cette expérience peut être fausse. Il faut pouvoir prouver la falsificabilité d'une hypothèse pour atteindre la dimension scientifique. Or, dans la théorie du complot, si on suit Popper, on peut aller jusque-là, ce qui manque justement, c'est cette épreuve des faits et c'est la reconnaissance que la vérité n'est pas forcément si facilement atteignable. En clair, les complotistes, c'est pas qu'ils doutent trop, c'est justement qu'ils ne doutent pas assez.
Oui, effectivement, ils doutent peut-être pas assez de leurs sources à eux. Mais si on reprend effectivement cette idée de théorie, moi je dirais que dès le départ, elle joue deux rôles. Peut-être même y compris sous la plume de Popper. Une théorie, ça peut être un ensemble d'énoncés qui sert à expliquer des faits. Et il est certain que les adeptes de ce qu'on appelle le méga complot, c'est-à-dire en fait tout s'explique par le nouvel ordre mondial, alors les Illuminati ou telle disons communauté historique particulière, eux ils sont sans doute dans une approche délirante mais explicative du monde. Tout prend sens à la lumière de cette hypothèse principale. Et le terme de théorie, il est également utilisé très souvent en un sens qui est un sens fautif pour jeter le doute ou stigmatiser une connaissance. Les créationnistes américains, quand ils disent que l'évolution n'est qu'une théorie, c'est exactement cette nuance-là qu'ils cherchent à induire. L'idée que, il y a des choses qui sont des théories et puis, si elles étaient suffisamment confirmées, ça deviendrait des faits, en fin de compte.
Une théorie s'oppose à la réalité, en fait. C'est oui, comme et une s'oppose hypothèse,
au fait bien établi, alors que c'est une confusion conceptuelle. La théorie sert à expliquer des faits, elle ne se situe pas sur le même niveau. Ou quand vous avez l'expression de théorie du genre, très souvent, eh bien, le terme de théorie cherche pas tant à renvoyer à un ensemble d'arguments, de lois, de conditions initiales, que, disons, de chercher à induire le doute sur cette chose-là. Et donc, quand on a théorie du complot, c'est pas neutre. Personne n'a envie d'être taxé de théoricien du complot. C'est pas vraiment un titre de gloire. Donc, il y a ce double sens dans l'idée de théorie, dès le départ. Et effectivement, ça peut nous inciter à réfléchir sur ce que veulent prouver les dits théoriciens du complot, c'est-à-dire ceux qui font l'hypothèse que des événements humains s'expliquent ou s'expliquent mieux par l'hypothèse d'un complot. Et donc là, on peut convoquer, disons, toute l'épistémologie avec nous. On peut regarder si leurs arguments sont falsifiables, c'est-à-dire effectivement s'ils s'exposent à la réfutation, comme vous l'avez dit. Dans le cas du complot, c'est compliqué puisque vous avez des acteurs qui cherchent à protéger les traces de leurs actions. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas trop d'indices du complot s'explique peut-être par la nature même du complot. Vous pouvez regarder le type d'arguments qui sont utilisés par les complotistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il y a des complots. Et dans ce cas-là, ce qu'ont relevé de nombreux analystes, qu'ils soient philosophes ou sociologues, c'est qu'on a souvent affaire à une forme de millefeuille argumentatif. C'est-à-dire, il y a trop de justifications. Les gens qui vont parler des tours jumelles, eh bien, ils vont parler des avions, de la manière dont ils sont contrôlés, surveillés, de la physique des poutrelles du dernier étage. Et d'un seul coup, on se retrouve avec une forêt d'arguments qui est assez distincte de ce qu'on retrouve habituellement en science, où vous pouvez regarder, alors on va pas passer en revue toute l'histoire de l'épistémologie, mais vous pouvez regarder, si on pense à Lakatoche, par exemple, qui est un philosophe des sciences important, si l'hypothèse permet d'expliquer de plus en plus de faits, si elle s'enrichit au fur et à mesure, et Woodward et Bernstein, donc les journalistes du Post, quand ils font l'hypothèse que derrière le cambriolage du Watergate, il y a une action de Nixon qui cherche à surveiller ses opposants, au fur et à mesure, ils trouvent de plus en plus de faits qui étayent leur hypothèse de départ, alors que, disons, les adeptes du méga complot, ils ont leur hypothèse de départ, et puis finalement, tout fait nouveau servira à l'illustrer quasiment par définition. On ne découvre pas de nouveaux faits au cours de l'enquête. Donc on peut servir de toutes ces choses-là qui servent habituellement à caractériser une théorie, si on part du texte de Popper.
Alors on va prendre un exemple, vous avez parlé du Watergate ou du 11 septembre, un autre exemple qui est de théorie du complot qui part de l'idée que selon laquelle ce serait la CIA qui aurait inventé le sida et dont il aurait aidé la propagation à Cuba. Écoutez, c'est un extrait du documentaire Cuba Sida, la vérité sous blocus, un documentaire de 2015 du journaliste Thomas Huchon.
La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Elle s'en est servie dans sa lutte contre les Cubains. Si l'Amérique est aujourd'hui prête à retourner à Cuba, c'est pour des raisons inavouables. Les Cubains ont découvert le vaccin contre le sida et les multinationales américaines entendent bien se l'approprier.
Évidemment, il faut rendre tout cela crédible. L'un des trucs des conspirationnistes, c'est de glisser des vérités historiques au milieu du faux.
Depuis le 19 avril 1965, un contingent révolutionnaire d'une centaine de Cubains est entré au Congo clandestinement. À sa tête, le commandant Che Guevara.
Par exemple, cette information sur le Che en Afrique est vraie. En revanche, la suite est complètement inventée.
Avec eux et à leur insu, le virus du sida commence à déferler à travers l'Afrique, provoquant, au fil des ans, la mort de millions d'innocents.
Pour faire peur, on symbolise la maladie par une tête de mort, puis on donne l'histoire officielle.
1985, un Cubain revient malade de Maputo au Mozambique. Une fois à La Havane, on lui apprend qu'il a le sida. Il est le premier cas officiel diagnostiqué sur l'île.
Une histoire à laquelle, encore une fois, on ne croit pas. On recolle à l'actualité grâce à un extrait vidéo de journal télévisé.
14 mars 2012, après 50 ans de recherche secrète, les Cubains sortent enfin de l'anonymat. Le docteur Enrique Iglesias annonce que ses équipes ont trouvé un vaccin contre le sida.
Tout est prêt pour notre révélation finale.
Voilà donc ce que cachait cette poignée de main historique. Il s'agit pour l'Amérique de récupérer ce vaccin, et par tous les moyens.
Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie, il est 10h20. Nous parlons de théorie du complot aujourd'hui, en compagnie de Mathias Girel. Nous venons d'entendre un extrait du documentaire de Thomas Huchon, donc sur Docu Cuba Sida, La vérité sous blocus. Est-ce qu'un des problèmes, on l'entend bien dans cet extrait Mathias Girel, est-ce qu'un des problèmes des théoriciens du complot ne relève pas d'une mauvaise utilisation de la causalité, tout simplement, parce qu'il part d'événements réels, mais c'est la construction d'une théorie en remontant à des causes qui auraient induit certains effets qu'ils produisent quelque chose de complètement erroné.
Oui, alors effectivement, on peut mettre en évidence ce type de phénomène, juste sur le, avant de le quitter, sur le document qu'on vient d'entendre, avec l'ambiance bien anxiogène,
ouais, les percussions.
Je pense me souvenir qu'il s'agissait d'une expérimentation destinée à vérifier la viralité de ce type de documentaire. Mais bon, ça, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est en jeu, disons, dans cet exemple-là, si on le prend au pied de la lettre, ou d'autres hypothèses qui ont été faites sur le virus Zika, par exemple, qui est responsable de la microencéphalie, eh bien, très souvent, c'est l'action de biais. En l'occurrence, ici, le biais de proportionnalité. Et c'est-à-dire qu'on a un effet qui est énorme, une épidémie, par exemple, et on s'imagine que la cause doit être à la hauteur de cet effet aussi importante. Et l'idée d'une minuscule mutation génétique ou d'un transfert au départ anodin semble tellement disproportionnée qu'un certain nombre d'acteurs ont envie de retrouver une cause aussi grande que l'effet. Alors, effectivement, dans l'histoire du sida, ça a été l'hypothèse qu'il s'agirait d'une arme biologique échappée de laboratoires militaires américains. Et théorie complotiste qu'on retrouve effectivement, alors là, en dehors de ce qui a été, de ce qu'on a pu écouter, qu'on retrouve effectivement dès les années 80, dans plusieurs communautés black américaines, communautés gay, les deux avaient des raisons de se méfier de l'État fédéral. Enfin, ça surgit pas totalement par hasard, même si scientifiquement c'est infondé, comme voilà, on l'a appris de plus en plus. Et l'exemple du SIDA est intéressant parce que ce qu'on a pu observer, et on le sait maintenant grâce à des historiens qui travaillent sur les archives des services secrets soviétiques, en l'occurrence est-allemands et bulgares, c'est que les services de ces pays-là ont surveillé avec attention l'émergence de théories du complot dans le but de les amplifier. Parce que quand vous souscrivez à une théorie du complot, eh bien, vous êtes plus facilement, sans doute, instrumentalisable si on vous fournit des éléments qui confortent votre croyance de départ. Et donc, ça illustre parfaitement le point que vous souleviez tout à l'heure, qui est que très souvent, le problème des théoriciens du complot, c'est pas le fait qu'ils doutent, c'est souvent qu'ils ne doutent pas assez.
Qu'ils sont persuadés de détenir la vérité.
Et persuadés de détenir la vérité, ce qui peut mener à être dogmatique. Et parfois, ils n'ont pas forcément, disons, cette prudence vis-à-vis des sources, vis-à-vis de l'examen critique des sources qui devrait normalement s'imposer dans une enquête empirique.
Par exemple, en toute rigueur scientifique, même un théoricien du complot, s'il prétend atteindre cette rigueur scientifique, même cette dimension scientifique, devrait être capable de temps à autre de remettre en question ses résultats. Or, ça n'arrive jamais.
Oui, effectivement, j'avais fait remarquer qu'on trouvait rarement de rétractation sur les sites complotistes. Alors, dans diverses discussions que nous occasionnent ces arguments, certains objecteurs avaient fait valoir que le fait que le film Loose Change, qui est un film complotiste consacré, qui défend l'hypothèse d'un complot derrière l'attentat de septembre 2001 aux États-Unis, eh bien, ces commentateurs, appelons-les comme ça, faisaient valoir que le fait que ce documentaire ait connu plusieurs versions équivalait à une forme de rétractation et de correction, et qu'on retrouvait bien dans ce discours-là, l'équivalent de ce qu'on a en science quand un article, est soit retiré, soit assorti d'un nouveau commentaire qui précise en quoi l'argumentation était fautive. Moi, il me semble que l'argument est un peu forcé. On n'a en général pas du tout ce processus de rectification, d'autocorrection qu'on trouve en science et qui est un élément important de la démarche scientifique. On doit pouvoir indiquer ce sur quoi on s'est trompé, pourquoi telle source ou telle expérimentation ou telle donnée sur laquelle on s'appuyait était fautive, lacunaire, et ça fait partie du travail de correction de la science, qui n'est pas du tout un scandale pour la raison, mais qui est au contraire un point point de départ pour un travail collectif d'enquête.
Alors ce qui est passionnant d'un point de vue qui cette fois-ci qui serait plus d'ordre scientifique mais vraiment empirique, c'est de voir à quel point il y a une demande pour ce genre de raisonnement, et Internet aujourd'hui fournit un moyen formidable de pouvoir mesurer la réactivité du public quand on lui propose une vidéo, par exemple, qui va être elle-même complotiste et démontrer qu'en fait, la vérité n'est pas là où on pense qu'elle se trouve, comme si nous étions un instant complotistes nous-mêmes, comme si finalement les auteurs de ces vidéos-là essayaient de tester la réaction des gens et de donner finalement, alimenter des soupçons qui sont déjà là. Mathias Girard.
Oui, effectivement, c'est sans doute ce qui explique en grande partie la viralité de ces documentaires qui étaient testés en l'occurrence dans.
Alors c'est ce que vous disiez sur le documentaire qu'on a diffusé, c'était un documentaire
de Spicy, si je me souviens bien,
mais sur
je
ne veux pas dire bêtises, Spicy, c'est ça.
Rudy Reichstadt et d'autres, si nous écoutent, pourront nous.
Alors on va en parler dans un instant.
Pourront nous apporter des précisions, mais effectivement il y a une viralité dans le discours complotiste, mais à mon avis qu'il ne faut pas séparer d'une autre attitude vis-à-vis de la vérité, de la preuve en général, qui ne se limite pas au complot. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître exotique, mais il y a une dizaine de jours, on est plusieurs à voir apparaître avec surprise, un sondage relayé par beaucoup de rédactions américaines et françaises qui dit que 16 millions d'Américains croient que le chocolat au lait vient de
vaches marrons.
Voilà, bon,
on a vu ça tourner.
Plusieurs à s'interroger là-dessus. Quand on regarde un petit peu l'examen des sources, et je parle uniquement de ce que 10 minutes d'enquête peuvent montrer, bon, on voit qu'il y a une source unique, qui est un article sur Internet, qu'en fait le sondage dans sa méthodologie ou dans ses résultats n'est jamais donné au public, qu'en fait il a été donné par un syndicat de producteurs laitiers précisément lors du mois du lait aux États-Unis. Je veux dire, ce sont des éléments qui peuvent interroger. Et si j'en parle, c'est parce que justement, ce sondage qui est censé démontrer, ou ce pseudo-sondage qui est censé démontrer l'irrationalité de nos amis américains, 16 millions, pensez donc. Bon, en fait, c'est un sondage en ligne auprès de 1000 personnes à la méthodologie complètement, opaque. Et donc, c'est un peu imprudent d'en tirer des conclusions. Pourtant, ce type de contenu est abondamment retransmis par des gens qui pensent, pouvoir dénoncer. Debunker l'irrationalité de leurs contemporains.
À un trait de caractère, en tout cas une demande, une envie de pouvoir montrer à quel point les Américains sont stupides, à quel point finalement les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Ça correspond, ça renvoie à une vraie caractéristique d'un certain esprit contemporain.
Oui, penser pouvoir démontrer l'irrationalité ou l'aveuglement des autres, bon, ça revient à se donner finalement à peu de frais une forme de pouvoir ou d'ascendant sur eux. Et en même temps, le fait de transmettre ce type de contenu sans aucun égard pour les sources, pour la vérification. Enfin, là, je parle uniquement de consulter le texte original d'un sondage. Il me semble que ça manifeste une indifférence par rapport au savoir ou par rapport aux raisons, qui à mon avis doit nous interroger et qui est beaucoup plus profonde que ce qui est en jeu dans les complots, dans les théories du complot.
Une des pistes peut-être pour aller dans votre sens, ce serait de déplacer la réflexion du point de vue purement scientifique vers un point de vue anthropologique ou même psychologique qui consisterait à dire que finalement les théoriciens du complot ne sont que l'une autre expression de ce qu'on appelait la paranoïa, même le style paranoïaque. Écoutez la définition que Richard Hofstadter en propose dans son livre « Le style paranoïaque, théorie du complot et droite radicale en Amérique ».
Le trait distinctif du style paranoïaque ne tient pas à ce que ses représentants voient des conspirations ou des complots ça et là au cours de l'histoire, mais au fait qu'à leurs yeux, une vaste et gigantesque conspiration constitue la force motrice des événements historiques. L'histoire est une conspiration ourdie par des forces démoniaques dotées d'une puissance quasi transcendante. Ces formes donnent le sentiment de ne pouvoir être vaincues, non pas par les voies habituelles du compromis politique, mais au terme d'une croisade sans limite. L'adepte du discours paranoïaque appréhende l'issue de cette conspiration en termes apocalyptiques. Il en va de la naissance et de l'extinction de mondes, d'ordre politique et de systèmes de valeurs tout entiers. Il se tient toujours prêt à défendre les remparts de la civilisation menacée. Il a toujours le sentiment de se trouver face à un tournant majeur. C'est maintenant ou jamais que la résistance à la conspiration doit s'organiser.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et si vous sentez cet air glacé dans la nuque, c'est celui du complot qui souffle aujourd'hui en studio en compagnie de Mathias Girel. Nous parlons de théorie du complot dans cette semaine sur l'opinion, hein, sur les chemins de la philosophie. Le texte qu'on vient d'entendre interprété par Georges Claes, donc de Richard Hofstadter, semble faire un parallèle entre le complot et la paranoïa, et il dit que le trait distinctif du style paranoïaque ne tient pas simplement à ce que ses représentants voient des conspirations, des complots, ça et là, au cours de l'histoire, mais au fait qu'à leurs yeux, une vaste et gigantesque conspiration constitue la force motrice des événements historiques. On est là dans un degré encore supérieur, Mathias Girel.
Oui, effectivement, pour reprendre la distinction qu'on nous faisions tout à l'heure entre les méga complots et les complots plus ordinaires, le texte d'Hofstadter, viserait plutôt les
méga. Alors qui est Hofstadter,
du coup? C'est un politiste, historien américain qui publie cet article dans Harper's en 1964 dans un contexte de critique de l'extrême droite américaine, de Goldwater et d'autres candidats. Il se défend, disons, de donner un portrait véritablement psychiatrique de cette condition du complotiste, mais bon, utilise quand même un certain nombre de traits généraux qui, effectivement, cette fois, ne portent pas tant sur la qualité des arguments utilisés, ce qu'on explorait tout à l'heure, en se demandant si c'était assez justifié, s'il y avait trop de justification ou pas, il s'intéresse plutôt, disons, à la mentalité ou au trait permanent du complotiste lui-même, bon, dans un contexte qui n'est plus exactement tout à fait celui du maccartisme de la décennie précédente, mais qui est encore très fortement celui de la guerre froide, où on peut avoir le sentiment d'un ennemi puissant, omniprésent, caché. Alors évidemment, les historiens, les analystes aujourd'hui relativisent ou recontextualisent le propos d'Hofstadter, le replacent dans son époque. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire vis-à-vis de toute source, mais Hofstadter, effectivement, dans le texte qu'on vient d'entendre, fait du trait caractéristique du complotiste, l'idée effectivement que c'est pas seulement qu'il y a des complots dans l'histoire, mais que l'histoire tout entière est complot. Il relève 4 ou 5 traits qu'on retrouverait derrière les discours complotistes. Mm-hmm. L'idée d'une lutte sans limite qui se déroule aujourd'hui sur Terre entre différentes puissances. L'idée qu'on retrouve dans certains discours apocalyptiques, l'idée que on est au moment d'un tournant majeur. Ce sont les dernières secondes pendant lesquelles peut-être nous pouvons agir pour enrayer cette chose-là. L'idée que le bien et le mal s'opposent vraiment de manière très crue, frontalement, que les méchants sont vraiment méchants. L'attention apportée aux renégats, c'est-à-dire aux gens qui ont trahi la cause et dont le témoignage d'un seul coup deviendrait plus important. Donc là, en l'occurrence, les anciens communistes dans ces années-là, ou même on peut penser de manière plus ordinaire au-delà de Hofstadter, quand vous faites un procès de la mafia, la parole des renégats, des gens qui ont trahi la cause, se voit accorder un poids plus important. Et dernier point qui peut-être ferait le trait d'union avec ce qu'on disait tout à l'heure, Hofstadter relève que ce sont des discours fortement rationalisants, c'est-à-dire qui multiplient sans arrêt les justifications, les exemples, les erreurs ou les contradictions troublantes. Bon, il relève aussi un aspect plus argumentatif, mais les autres font partie de la personnalité du complotiste. Et on a bien là deux approches. Si vous voulez, tout à l'heure, on était dans l'examen des raisons. On regardait si les raisons du complotiste étaient, et on n'en a pas fini l'inventaire, mais en tout cas, si elles étaient suffisamment puissantes pour soutenir l'hypothèse d'un complot. Et là, on se détourne une seconde des raisons et on s'interroge plutôt sur les causes. Mmh. Qu'est-ce qui fait que chez le complotiste, il y a cette tendance à croire à ce type de récit?
Mais est-ce que finalement, si justement on est sur un point de vue plus anthropologique, voire psychologique, est-ce que tous les traits de caractère que vous décrivez là ne sont pas propres aux complotistes? Finalement, la dimension apocalyptique, l'opposition franche entre le bien et le mal, l'importance accordée aux renégats, c'est le scénario type d'un blockbuster américain. On trouve ça partout.
On trouve ça, effectivement, et en tout cas, on trouve des... Oui, mais on pourrait renverser l'argument dans l'autre sens. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de traits de la mentalité complotiste, voilà, qui sont renforcés par la scénographie des blockbusters américains. L'idée que, bah, finalement, il y a quelques méchants bien reconnaissables, on les reconnaît, ils grimacent, il y a une musique forte quand ils apparaissent, qui en fait sont les seuls responsables, disons, des effets indésirables qui se produisent. Alors que, voilà, dans des conditions ordinaires, quand vous êtes face à un événement déplorable, une injustice ordinaire, avant d'identifier un responsable vraiment responsable, un méchant vraiment méchant, ouais, on a toute une forêt d'autres explications souvent qui font apparaître soit de la négligence, soit beaucoup d'accidents dans les affaires humaines et qui en général font toute l'épaisseur des explications anthropologiques qu'on peut donner. Et donc cette stylisation qu'il y a dans le récit complotiste que décrit Hofstadter et disons cette sorte d'épure voire de caricature qu'il y a dans le blockbuster hollywoodien de certaines années, pas chez les plus grands et chez les meilleurs réalisateurs, mais peut-être qu'ils présentent des traits communs.
On peut aussi penser à des films beaucoup plus subtils. Je pense au Truman Show, hein, de Peter Weir, où justement cet homme découvre un jour qu'il a quasiment 40 ans, qu'en fait depuis sa naissance, il est le jouet d'un producteur de télé-réalité américaine et que le monde dans lequel il vit est en fait un monde fait de décors avec des acteurs. Ce que je veux dire par là, c'est au contraire plutôt d'ailleurs valorisateur à l'égard du cinéma américain, c'est d'arriver à déceler ce trait de caractère qui est peut-être beaucoup plus partagé que ce qu'on croit. C'est que l'expérience même de douter de l'existence des choses, de douter de la version officielle qu'on nous présente, peut correspondre à plus qu'un trait de caractère d'ailleurs, mais à presque une méthode qui est extrêmement utile pour la connaissance. Quand Descartes s'enferme dans son poêle et décide d'imaginer un instant que rien autour de lui n'existe vraiment, parce qu'il ne peut pas prouver l'existence du monde qui l'entoure, ni même l'existence de son corps, et qu'il produit par là les méditations métaphysiques qui restent dans l'histoire de la philosophie comme un texte indépassable, il reproduit le même genre de procédé qu'on trouve à l'œuvre de manière exagérée et caricaturale dans la théorie du complot.
Oui. Alors, je dirais, en m'appuyant sur un auteur qui m'a beaucoup intéressé et qui continue à m'intéresser, qui est le philosophe américain Charles Sanders Peirce, fin 19e, début 20e, c'est l'inventeur du pragmatisme, de la sémiotique et de nombreuses autres choses très profondes. Et Peirce, dans sa théorie de l'enquête, critiquait les doutes gratuits et insistait, avant Wittgenstein, sur l'idée que douter, c'est avoir une raison de douter. Donc le doute gratuit qui ne vit que pour lui-même n'a pas d'intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est le doute au service d'une preuve qui peut arriver, un meilleur état de l'enquête. Et donc, quand on est face à une mise en doute des apparences ou des récits officiels, il faut demander à la personne qui soulève ces doutes ce qu'elle entend ou ce qu'elle espère montrer. Mm-hmm. Si c'est juste des contradictions, on ne va pas être tellement plus avancé. Et très souvent, il est très difficile de faire préciser aux complotistes quelle est leur hypothèse fondamentale. Si on pense que les tours jumelles ne sont pas tombées sous le coup de deux avions pilotés par des membres d'Al-Qaïda, enfin, quelle est l'autre hypothèse? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce cas-là, il faut le dire jusqu'au bout et exposer cette hypothèse que tout semble démentir, à l'examen, au même libre examen que les autres hypothèses. Et donc, je parlerai très souvent d'un exercice, disons, imprudent, voire irresponsable du doute quand il ne s'assortit pas d'une volonté de prouver, en tout cas de soumettre une hypothèse ou une conclusion à l'ensemble de la communauté d'enquête.
Non, mais je disais, pour reprendre l'exemple de Descartes, finalement, dernière analyse, Descartes a besoin de l'existence de Dieu pour prouver l'existence du monde. Ce qui finalement, et Dieu lui-même, l'existence du Dieu elle-même n'est pas prouvable.
Oui, alors bon, après il y a une circularité effectivement dans les méditations métaphysiques entre le cogito et l'infini divin. Bon, effectivement, alors là qui nous emmènerait.
Alors je dis pas que Descartes est complotiste, je dis justement que cette méthode à l'œuvre est beaucoup plus répandue et peut-être même subtile que ce à quoi on veut la réduire.
Oui,
la méthode du complotisme.
Oui, elle est subtile parce qu'elle nous incite à réfléchir sur le rapport que nous avons aux sources, aux preuves, aux conclusions et le scepticisme après tout. Peut être très utile ici, puisque en général, c'est une philosophie qui a une essence fondamentalement pratique et qui nous incite à nous déprendre de certaines croyances dogmatiques qui peuvent nous rendre malheureux dans certains cas. En l'occurrence, je pense que le scepticisme, une des leçons, c'est que si vous n'êtes si vous ne pouvez pas justifier une de vos croyances, eh bien il est plus prudent de suspendre votre jugement. Et eh bien un certain nombre de cas ou de situations dans lesquelles effectivement il serait plus prudent de suspendre son jugement. Par exemple, je pense aux révélations apportées par Snowden, par exemple.
Donc le lanceur d'alerte. Snowden.
Lanceur d'alerte sur les méthodes de la NSA, dont les premières révélations, donner à penser que même les plus paranoïaques des paranoïaques 10 ans auparavant au sujet de l'internet étaient encore de doux rêveurs. Donc ça c'est un premier trait. Et puis finalement, quand on voit les conditions de son séjour ou de sa résidence ou de sa détention actuelle en Russie. Peut-être que dans un certain nombre de cas, il vaut mieux suspendre un petit peu son jugement, le temps d'en savoir plus. Et c'est pour ça que je pense que derrière le complotisme, il y a souvent en fait quelque chose d'assez vertueux. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il y a une curiosité. Effectivement, curiosité vis-à-vis de l'apparence, vis-à-vis des récits qui souvent pourraient être mieux employés si elles s'appliquaient à des choses qu'elles étaient à même de prouver. Il est très difficile de faire la vérité sur les motivations de Snowden, à supposer qu'on puisse le faire un jour. En revanche, finalement, assister à votre conseil municipal, surveiller le plan d'urbanisme, surveiller les lois qui sont votées par vos représentants, c'est un type d'enquête à laquelle vous pouvez vous livrer, qui peut donner un certain nombre de résultats utiles pour la communauté. C'est sans doute un meilleur emploi de la curiosité. Qui dès lors donc n'est plus investi sur des sujets qu'il est difficile de prouver à l'échelle de l'enquêteur individuel ou voire de la personne qui s'appuie uniquement sur des vidéos vues sur YouTube ou sur d'autres supports.
Connaissez-vous le site Conspiracy Watch ?
Oui, j'ai eu l'occasion d'interagir à plusieurs reprises et d'inviter Rudi Reichstadt, qui en est le
donc le cofondateur avec Valérie Gounet. Hein, donc je rappelle juste, c'est un site qui a été créé en 2007 et qui donc aujourd'hui, 10 ans après sa création, a pour ambition, c'est ce qu'on trouve sur le site, de constituer un service de presse en ligne entièrement consacré à l'information sur le phénomène conspirationniste. Le négationnisme et leur manifestation actuelle, c'est une mine d'or, justement, de réflexion sur tous ces éléments-là. Ce qui montre bien que si Internet favorise l'expression du complotisme, eh bien, il favorise aujourd'hui, désormais aussi, peut-être son meilleur antidote.
Oui, je pense que ce site est précieux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il fournit des outils d'analyse, des textes de référence tout à fait intéressants. Et il effectue également un travail de documentation. Et je trouve qu'il est précieux par les rapprochements qu'il permet. C'est-à-dire quand on voit qu'au cours de quasiment tous les derniers attentats, on n'a même pas encore fini de dénombrer les victimes. Et il y a déjà des gens qui élèvent des arguments dits de fausses bannières, c'est-à-dire disant, vous avez l'impression que c'est un attentat opéré par, en l'occurrence, par des islamistes.
En mais fait, c'est l'État doute, français qui l'a commandité.
Ou le Mossad, ou telle autre entité qui plaît à ces acteurs-là. Voir que ça se produit quasiment systématiquement dans les minutes qui suivent la plupart des attentats récents, je trouve que ça peut inciter à quelques prudences quand on est confronté au même récit. J'espère que ça ne se produira pas de sitôt, mais au prochain attentat. Et donc cet effet de documentation, cet effet de tableau systématique ou des types d'arguments aussi qu'on voit revenir sans cesse, de manière récurrente, je trouve est très précieux. Et je le trouve précieux aussi à un second point de vue que je pense que quand nous sommes confrontés à quelque chose que nous estimons être faux. Il me semble qu'il y a une forme de devoir, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas d'intervenir sur la place publique. Et ça, je le pense plus généralement, disons à la lumière d'autres controverses que j'ai pu suivre. Quand quelque chose se dit sur votre discipline, sur la place publique, ça peut être des médias, ça peut être Internet, ça peut être toutes les formes de support disponibles actuellement, il y a un moment où il faut décider si vous êtes concerné par ça ou pas, et si finalement la circulation de discours faux ou tronqués ou biaisés sur la science médicale, sur le climat, si vous êtes climatologue, sur ces choses-là, si ça vous est indifférent, ou si vous rentrez dans l'arène du débat public, moi je pense que Bah, je pense qu'il est responsable de le faire de manière mesurée, puisqu'on a un temps limité. Mais finalement, ce qui est dit d'une discipline ou même des événements qui nous concernent sur la place publique, bien, c'est aussi quelque chose qui nous regarde, sur lesquels on a notre mot à dire. Et alors, je n'invente rien. Le logicien et mathématicien de Morgan au 19e siècle, s'interrogeait sur le pourcentage de temps. Il était mathématicien sur le pourcentage de temps qu'il était consacré. Qui était raisonnable de consacrer à la réfutation des sophismes mathématiques ou des erreurs mathématiques publiées dans des revues ou dans des livres. Et donc, est-ce que ce travail sur le faux, sur le mal fondé est important et intéressant et mérite une partie de notre temps? Ben, je pense que c'est le cas, et je pense que le site que vous mentionnez,
Conspiracy Watch
travaille à cette chose-là. Et il faut un grand pluralisme des sources dans ce domaine.
Et sachez que le numéro 21 de la revue de France Culture, la revue papier, a pour dossier principal le vrai, le faux et le presque vrai. Donc on trouve beaucoup d'informations à ce sujet-là, et c'est d'ailleurs à cette occasion, à la sortie de ce numéro-là, qu'on a fait cette semaine sur l'opinion. Un dernier mot quand même, vous parlez de ce devoir d'intervenir, ce devoir de critiquer le faux lorsqu'il est brandi comme un argument. Et bien souvent, et c'est là où c'est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas objecter du vrai au faux, c'est que bien souvent la réalité est beaucoup plus complexe que vrai contre faux ou noir contre blanc.
Oui, mais dans ce cas-là, ça peut être aussi un argument de second niveau. Et finalement, on est en train de reboucler avec Popper. Donc, j'ai essayé de montrer qu'il y avait quelques limitations dans son texte, même s'il soulevait des objections importantes. Mais finalement, on pourrait donner raison à Popper en disant que l'argumentation complotiste, elle fait porter trop de poids aux individus. Et finalement, on retrouverait en ça des gens qui ne se pensent pas forcément popperiens, mais qui sont des penseurs, des intellectuels de la gauche américaine, Albert, Chalon, qu'on a dans un numéro spécial de la revue Agone, qui était dédié aux théories du complot. Et eux, leur argument, c'est le suivant, c'est de dire, dans une vision progressiste de la société, le problème des arguments complotistes, c'est qu'ils nous font nous retourner vers un individu ou un groupe. Dans le meilleur des cas, ça nous permet d'expliquer un événement passé, alors qu'une attention plus grande consacrée aux institutions, à leur fonctionnement, nous permet d'agir, parce que leurs conséquences se reproduisent sans cesse, nous permet d'agir sur le futur.
C'est rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager?
Vous nous cachez peut-être des choses, Mathias Girel, mais vous nous avez dit beaucoup, en tout cas aujourd'hui. Alors un grand merci à vous d'être venu nous parler aujourd'hui. Donc je rappelle que vous avez édité et préfacé Golden Holocaust de Robert Proctor, La conspiration des industriels du tabac, aux éditions des Équateurs. Et on pourra lire un livre de vous qui sort à la rentrée aux éditions Quae, Science et territoire de l'ignorance. Oui. C'est noté. Je vous invite, chers auditeurs également, à découvrir donc le numéro 21 de la revue de France Culture, la revue papier, qui porte sur le vrai, le faux et le presque vrai. Et on y trouve notamment des émissions, des retranscriptions d'émissions, mais aussi des papiers inédits.
On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Plus on apprend, plus on ne sait rien. C'est Jacques Dutronc qui le chante, mais vous lui donnez tort, Géraldine, car avec vous, on apprend et on sait beaucoup plus au terme de vos deux minutes papillon quotidienne.
Mais c'est gentil, Adèle.
On sait en tout cas ce qui sort. Bonjour à vous, ce qui sort dans le domaine de l'édition en philosophie. Aujourd'hui, vous avez retenu un livre qui porte un titre intéressant, Dans la peau d'une bête.
Et oui, pour cet été, Adèle, je vous propose de vous mettre dans la peau d'une bête. C'est en tout cas ce à quoi invite le titre de cet essai de Charles Foster. Et ce n'est pas qu'un titre, puisque Charles Foster, professeur à Oxford, vétérinaire, en a pour sa part vraiment fait l'expérience et il la raconte ici. Alors il faut le dire, ce n'est pas seulement une expérience de pensée ou de méditation comme le chamanisme. Ce n'est pas non plus l'expérience banale qu'on a tous fait de parler à son animal de compagnie ou au moins de lui donner un nom, ni encore les expériences certes moins fréquentes de chasse ou de taxidermie. Non, c'est autre chose. Mais c'est quoi? comment faire plus que cela ?
Sur la neige durcie qui supporte maintenant son poids, le renard est en chasse. Élégance du pas et efficacité de tous les sens en éveil, capable de détecter, sous le manteau blanc, la proie à saisir.
Comment donc se mettre dans la peau d'un animal comme celle d'un renard, par exemple, et plus précisément, comment y parvenir, sachant la profonde altérité qui nous sépare de tout être vivant ? Eh bien, tout simplement, en se mettant au sens propre dans la peau d'un animal, en adoptant les mouvements, les pratiques, les chemins, les manières de vivre. C'est ainsi que Charles Foster, par exemple, a tenté de chasser comme un renard, c'est-à-dire non pas en localisant dans l'espace où se situe sa proie, mais en se servant du son qu'émet celle-ci. Et c'est ainsi qu'il a aussi pu creuser un terrier ou manger un ver comme un autre animal.
Tous les sens des blaireaux sont à cet instant en alerte. Le plus important est sans conteste l'odorat. La truffe humide et hypersensible capte et analyse en détail le paysage aux mille odeurs auxquelles l'homme n'a pas accès. La vérification est lente, méthodique, et le moindre parfum inhabituel fera retourner le blaireau au fond de son trou.
Blaireau, renard, mais aussi loutre, martinet ou cerf noble, Charles Foster est donc devenu une bête. Et on comprend au fil des pages en quoi ces expériences ne relèvent pas seulement de la métaphysique avec la question de la conscience, de la politique et de l'éthique, avec celle de l'identité et de l'altérité, mais bien de l'expérience elle-même, c'est-à-dire de l'immersion, de l'immanence avec tout ce qui résiste. Et avec cette question qui reste en suspens, les animaux vivent-ils dans le même monde que moi ? Voient-ils, sentent-ils donc les choses de la même manière que moi ?
Et vous, Géraldine, si vous pouviez choisir, vous iriez dans la peau de quelle bête ?
Ah, le blaireau m'a bien plu.
Ah, le blaireau, Mathias Girel ?
Pourquoi pas ?
Le blaireau aussi. Oh non, moi je choisis le lion.
Ah oui, alors il ne traite pas le lion, il traite bon, la loutre.
Je lui suggérais, non, la loutre, ça m'intéresse moins. Donc rappelez-nous, dans la peau d'une bête, c'est le titre du livre.
Voilà, de Charles Foster, et c'est paru aux éditions J.C. Lattès.
Merci Géraldine, c'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et vous pourrez également réécouter l'émission du jour sur la théorie du complot en votre compagnie Mathias Girel. Une émission donc à réécouter, mais aussi à télécharger, à podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'opinion. L'opinion a presque toujours raison. Demain, nous parlerons de liberté d'expression de John Stuart Mill en compagnie du philosophe Denis Ramon. Rendez-vous sur Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires sur la théorie du complot. Je suis sûre qu'ils seront nombreux.